Oscillation atemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée pas pareille sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà de notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à 19h, Oscillation atemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, d'un orchestre ou chef d'orchestre ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées, de petits potins et de la raison en toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation atemporelle est animée par Marie au micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. Ce mois d'avril est consacré à la jeunesse laborieuse et courageuse, à tous ceux qui passent leur bac et ont choisi l'option musique. À leur programme figure notamment une œuvre de Carl Philipp Emanuel Bach, Concerto pour violoncelle en La majeur, WQ 172, et plus particulièrement le troisième mouvement, Allegro assai, et une œuvre pour piano de Robert Schumann, Carnaval, dont les extraits au programme sont Préambule, Pierrot, Eusebius, Florestan, ASCHSCHA, les lettres dansantes, Chopin, Marche des David Spindler contre les Philistins. Cette oscillation atemporelle, une fois n'est pas coutume, laisse plus de place à la parole de Philippe, pour l'histoire et les petits potins, et moins à la musique qui se posera comme des respirations. Nous commençons par Schumann et Carnaval.
Carnaval, opus 9 de Robert Schumann. Alors Robert Schumann, c'est compositeur, on va dire allemand, mais il n'y a pas d'Allemagne à l'époque, hein. Il est né en 1810, il est mort en 1856. L'Allemagne, c'est plus tard, hein. La création de l'Allemagne officielle, c'est 1871. Donc il fait partie de ces états, myriades de petits états autour du Rhin. Mais par contre, il y a une identité autour de la langue allemande, de la poésie allemande, de cet imaginaire, sur lequel le romantisme, voilà un mot important, va pouvoir cristalliser beaucoup de choses, et Schumann en fait partie. Alors, c'est quoi ce romantisme allemand ? C'est un mouvement qui naît avec le poète Novalis. Et dans ce mouvement poétique, littéraire, il y a quand même des aspirations à beaucoup de choses. Il y a des aspirations à interroger le passé, notamment le Moyen-Âge, et de lui trouver des contours un peu mystérieux, un peu fantastiques. Donc on interroge les choses un peu insolites, un peu magiques. C'est également le lien avec la nuit, avec le rêve, avec l'imaginaire. Il y a des visions des fois de sorcellerie, de châteaux en ruine sur les bords du Rhin. Voilà, on est dans cet imaginaire vraiment très germanique. Et il faut pas oublier un truc, c'est que la définition première du romantisme, c'est l'accès à la liberté. Celui qui est romantique, c'est celui qui se définit comme libre. Alors c'est vrai qu'un des premiers compositeurs romantiques, c'est peut-être Beethoven, et Beethoven c'est aussi un des premiers qui, progressivement dans sa carrière, va refuser d'être le compositeur d'une chapelle ou d'un prince. C'est-à-dire qu'il n'appartient à personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'accepte pas les commandes des uns et des autres, hein, mais il n'appartient qu'à lui-même, en quelque sorte. Donc c'est cette quête de la liberté. Et Robert Schumann, donc je redonne les dates, hein, 1810 et 1856, donc il n'a pas une vie très 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 longue, hein, mais en tous les cas, il incarne totalement ce mouvement romantique allemand. Alors c'est un pianiste, c'est un compositeur qui écrit des symphonies, des concertos, beaucoup de musique de chambre, mais aussi beaucoup d'œuvres pour piano, dont il est l'interprète. Et là, on retrouve également quelque chose qui est assez typique du 19e siècle, c'est le compositeur-interprète. Alors, on peut citer Frédéric Chopin, c'est quand même l'un des plus fameux, pianiste et compositeur, et donc interprète de ses propres œuvres. Beethoven le premier, c'est aussi l'interprète de ses propres sonates pour piano et de ses propres concertos pour piano. Franz Liszt va également connaître une carrière à la fois de compositeur et de pianiste. Il n'y a pas que des pianistes, il y a aussi un certain Paganini, qui est évidemment virtuose violoniste, mais Paganini, c'est aussi l'interprète de ses propres œuvres, les caprices et les concertos. Donc Schumann, il s'inscrit dans cette lignée-là, en tous les cas, de pianiste-compositeur. Alors du coup, il écrit énormément pour piano, des œuvres qu'il va jouer. Et l'univers de Schumann, c'est un univers à la fois très fantasque, on parlait tout à l'heure du fantastique, donc le rêve, il y a vraiment une part très 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 importante. Et puis en même temps, il faut qu'on le dise quand même, Schumann, c'est quelqu'un qui va connaître de très près la dépression tout au long de sa vie, à tel point qu'il va faire une tentative de suicide en se jetant dans le Rhin à la fin de son existence, et puis il va perdre la raison. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un de très équilibré, c'est quelqu'un qui va aussi marquer sa musique de ce déséquilibre. C'est-à-dire que c'est des paysages assez stupéfiants, c'est des ruptures aussi de climat, des ruptures de couleurs ou d'éclairage, c'est-à-dire qu'il nous installe dans quelque chose, et puis d'un seul coup, que ce soit rythmique, que ce soit harmonique, il y a autre chose qui apparaît soudainement, des fois sans préparation, c'est un peu abrupt, et peut-être que l'esprit d'un carnaval, ça incarnait parfaitement ce monde en rupture, une espèce de cortège un peu insolite, de personnages, de tableaux, de situations qui peut-être n'ont rien à voir les uns avec les autres. En tous les cas, il nous brosse des portraits, j'ai envie de dire un peu comme Jérôme Bosch dans certains tableaux, beaucoup plus anciens bien sûr, mais des choses qui peuvent être inquiétantes, des choses qui peuvent nous faire rire, des choses sur lesquelles on a des repères. Tiens, il y a un petit mouvement de valse qui s'invite, il y a quelque chose de très poétique, de très méditatif, et puis l'instant d'après, il y a une marche un petit peu conquérante, un petit peu véhémente comme ça, donc c'est assez étonnant. Schumann, il va connaître l'amour, c'est pas rien de le dire, puisque c'est un amour très fusionnel avec son épouse, qui s'appelait Clara Schumann, également pianiste, également compositrice, et qui fait malheureusement partie de ces nombreuses compositrices au XIXe siècle pour qui on demandait surtout de bien vouloir être l'épouse de. Voilà. Néanmoins, Schumann n'a jamais empêché sa femme d'écrire, et elle nous laisse des leaders, elle nous laisse un concerto pour piano, elle nous laisse des pièces. Et Clara et Robert Schumann vont être un couple d'artistes qui vont mettre le pied à l'étrier au jeune Johannes Brahms. Ils vont le rencontrer, ils vont l'aider, ils vont promouvoir sa musique, et Brahms sera reconnaissant jusqu'à la fin de ses jours de cette belle rencontre avec Clara et Robert Schumann. En tous les cas, c'est un compositeur de l'étrange, c'est un compositeur qui ne laisse pas indifférent, c'est un compositeur de la nuit, je trouve. C'est des univers qui se transforment parce qu'on a une autre perception, parce que la lumière change, parce que le jour tombe, et on voit les choses différemment, on les ressent différemment, et Schumann sait les mettre en musique. Je pense que c'est tout l'esprit de ce carnaval, qu'il ne faut pas confondre avec une œuvre plus tardive du même Schumann, qui est le Carnaval de Vienne. Là, c'est le Carnaval opus 9, et plus tard, il composera le Carnaval de Vienne.
Pour piano.
Pour piano également.
Donc une œuvre crépusculaire.
Oui. Encore une fois, il a vécu 46 ans, c'est pas grand-chose. Hein, et tout au long de sa vie, on a le sentiment que... Il faut que c'est la vie, il s'agit de la vie. Toute la musique de Schumann parle de la vie, même quand elle est en extension d'elle-même, d'une manière un peu expressionniste. C'est-à-dire, elle se transforme, elle se déforme, mais c'est la vie quand même. On n'est pas dans la sidération au point où plus rien ne vibre, plus rien ne résonne. Schumann cherche les résonances partout, tout le temps. Et des fois, c'est un peu étrange pour nous. Il y a des cycles de Lieder, c'est-à-dire des chansons pour voix et piano, que Schumann nous laisse sur des poèmes de Heine, je pense au Dichterliebe, les amours du poète, ou dans ce cycle de poèmes mis en musique par Schumann, tout est dit. C'est-à-dire, j'aspire à la vie, mais la vie est cruelle, donc voilà ce que je ressens quand la vie est cruelle, je passe par telle phase, et telle phase, et telle phase aussi, donc c'est un monde un peu cauchemardesque par moments, la musique l'évoque, et puis d'un seul coup, ben, il y a de la sérénité, nous revoilà, je dis pas en terrain connu, mais on est rassuré. Et c'est ça la magie de Schumann, c'est qu'il est capable du voyage et du retour, et il sait nous emmener. Le Carnaval opus 9, ça reste une des pièces qui se présente comme un cheval de bataille pour les pianistes. D'abord, c'est vraiment une pièce de concert, c'est-à-dire que elle est faite pour être écoutée avec cette caisse de résonance incroyable qu'est le public. Il y a des grands moments de piano démonstratif, de piano brillant, de piano virtuose, et ça c'est formidable. Donc ça nous plonge dans l'esprit de ce que doit être un carnaval, j'imagine. Et puis Schumann, le Rhénan, hein, c'est pas un Autrichien, c'est un Allemand de la vallée du Rhin. Le Rhénan, il avait l'habitude du carnaval de Cologne notamment. Donc je pense que là, on est plongé dans cet univers brillant, virtuose, magnifique. Et puis d'un seul coup, comme on disait, il y a des ruptures. Il y a des choses plus inquiétantes, des choses plus méditatives, des choses qui des fois frôlent le silence. Alors on se dit, mais alors, la musique va s'arrêter. Non, la musique ne s'arrête pas, simplement il a décidé de ne pas tout nous rendre audible. Et c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Donc c'est les fantômes aussi qui repassent par là, peut-être. Et ça reste, pour certaines pages, je pense à la marche de David contre les Philistins, par exemple, ça reste des pages que les jeunes pianistes étudient relativement tôt dans leur parcours. Mais il faut avoir la notion de ce qu'est un cycle. C'est-à-dire, pris isolément, un tableau ne raconte pas la même chose que dans le contexte de toute sa mise en valeur avec d'autres pièces pouvant s'y raccorder. Quand on parle des tableaux d'une exposition de Moussorgski, c'est exactement la même chose. Bien sûr qu'on peut écouter un tableau, une pièce, mais la notion du cycle, c'est quelque chose qui est fondamental chez les romantiques. C'est-à-dire un cycle, et c'est un cycle de leader pour voix et piano, ou c'est un cycle pour piano seul, ce qui est le cas avec le Carnaval opus 9, un cycle, c'est un voyage, c'est en tous les cas tout un périple à accomplir entre la première pièce jusqu'à la dernière. Le compositeur a pensé à une dramaturgie. La dramaturgie, elle est sur les intentions, c'est-à-dire elle est sur le rythme, elle est sur les couleurs, elle est sur les intensités, elle est sur les tempi. On peut pas, par exemple, déverser 15 minutes de musique comme un feu d'artifice au démarrage et puis après, on n'a plus de jus. Donc, c'est tout l'art aussi d'écrire un cycle pour piano quand on est soi-même pianiste et qu'on est à la recherche des sensations digitales tout comme des sensations auditives. Chopin le fait admirablement, Liszt également, et Schumann, c'est juste merveilleux.
la différence entre les instruments baroques et les instruments classiques?
Alors, pendant longtemps, la facture instrumentale, c'est-à-dire la manière dont on fabrique les instruments, on appelle ça la facture instrumentale. Celui qui fabrique un piano, on dit encore que c'est un facteur, aujourd'hui. Facteur d'orgue, facteur de piano, etc. Pour un fabricant de violon, on va dire un luthier. Mais tout ça, ça relève de la facture instrumentale. La facture instrumentale ancienne, il y a quand même une donnée fondamentale, c'est que les cordes étaient en boyaux. N'étaient pas des cordes métalliques. Pour les instruments de l'orchestre, c'est-à-dire le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, c'était des cordes en boyaux. Alors, il y a une certaine rondeur au son, il y a un certain velouté, même je dirais, dans la sonorité, mais pour ce qui est de la projection du son et s'adresser à un large auditoire, ben c'était beaucoup plus compliqué. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne joue pas devant 2000 personnes. Donc jouer Vivaldi aujourd'hui à la Philharmonie à Paris, c'est bien, mais à l'époque, Vivaldi n'a jamais conçu ça pour ça. Donc au fil du temps, il a fallu qu'on trouve le moyen de projeter le son. Et la corde métallique a fini par s'imposer progressivement. Donc ça c'est une donnée déjà importante. C'est-à-dire que un orchestre baroque, encore aujourd'hui, d'abord il y a une question de diapason, on va en parler juste après, et puis il y a la question effectivement de cette projection du son. Faut savoir aussi que en termes d'articulation, la corde métallique est beaucoup plus dure à manipuler que la corde en boyau. Elle demande une pression plus grande sur l'instrument, pour pression digitale. Je veux dire que les doigts sont obligés de fournir plus de travail, plus d'efforts que la corde en boyau.
Il faut appuyer plus fort.
Il faut appuyer plus fort, voilà. La question du diapason, c'est important parce que aujourd'hui on dit, allez, le La, c'est à peu près 440, 442. Alors d'abord, ça dépend où. Si on va en Autriche aujourd'hui, le La, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, c'est 448. C'est-à-dire qu'on crée une tension supplémentaire sur la note. Plus la note va être mise sous tension, quand je dis sous tension, c'est faut se représenter la corde d'un piano qu'on étire, voilà, qu'on met sous tension. Pourquoi ? Ben parce que c'est plus brillant. C'est plus brillant. Et plus on a développé la taille des orchestres, 18e, 19e siècle, plus on a développé la taille des orchestres, plus on a cherché le brillant du son. Donc on met un diapason des fois très très haut. Et puis, aujourd'hui, on peut dire aussi qu'il n'y a pas une uniformisation des diapasons. Mmh. À l'époque dite baroque, pour faire très simple, parce que la réalité, c'est qu'il y avait quasiment un diapason par ville. Mais pour faire très simple, on va dire qu'en France, on a fini par stabiliser un diapason à la fin du règne de Louis XIV, aux alentours de 390-392, pour le La, et qu'en Allemagne, on était à 415. On sait aussi que le diapason de l'Orfeo de Monteverdi à Mantoue devait être vers 450, beaucoup plus haut que le La actuel. Donc il y a vraiment des disparités comme ça. Mais il faut aussi se rappeler qu'au XVIIe siècle, en France, les villes n'avaient pas la même heure. Chaque ville décidait de l'heure qu'il était à peu près. Je veux dire, s'il y avait 10-15 minutes de différence, c'était pas un drame. Donc le diapason, c'est un petit peu la même chose. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental aussi, c'est que les gens qui aujourd'hui jouent les instruments dits d'époque doivent tenir compte de ces diapasons à l'époque et selon le répertoire qu'ils jouent. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Et puis pour finir aussi, c'est la facture des instruments à vent. Quand on joue de la musique ancienne, le cor, la trompette, toutes les notes ne se jouent qu'avec les lèvres. Donc on ne peut pas tout jouer. Les demi-tons, c'est-à-dire la musique chromatique, elle va arriver plus tard, après, et c'est pour ça qu'on a mis sur les instruments des systèmes de pistons ou de palettes. Donc à l'époque, les choses, elles se font avec les lèvres pour avoir les sonorités naturelles de l'instrument. Et sur des instruments comme la flûte, le basson, le hautbois, si on regarde des instruments modernes aujourd'hui, il y a beaucoup de clés. C'est-à-dire qu'il y a autant de métal que de bois. Mais parce que ça permet des combinaisons digitales qui rendent les notes possibles. Et leurs enchaînements possibles. À l'époque, il n'y en a presque pas. C'est-à-dire qu'il faut tricher avec des quarts de... des trous qu'on va boucher sur un quart, la moitié, etc. Il y a des systèmes de fourches avec les doigts. Enfin, c'est pas aisé. Et en fait, tout ça, ça contribue à créer une sonorité, une esthétique, mais aussi une façon de penser le son et la musique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder un quatuor de Schoenberg comme on va aborder une sonate en trio de Bach. C'est pas la même mentalité, c'est pas la même façon de penser le son, l'espace, le silence, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important qu'on puisse se dire, les gens qui font ce travail de recherche aujourd'hui de la musique ancienne ne cherchent certainement pas la vérité. On ne sait pas. Et on ne peut que proposer. Alors, des fois, on rigole de ce qu'on entendait dans les années 70-80, quand il y a eu les premiers... les balbutiements au disque avec des œuvres de Bach ou de Telemann, avec des sonorités. Mais oui, mais c'était là où on en était à l'époque. Je pense que dans 20-30 ans, les gens, ils riront de ce qu'on fait aujourd'hui, et etc., etc. Tous les cas, c'est se dire, en cherchant, il se passe d'autres phénomènes et d'autres choses. Et ces répertoires-là nous permettent cette recherche. Là où, en plus, les compositeurs n'ont jamais marqué d'indication métronomique. Et pour cause, il n'y a pas de métronome à l'époque. Donc, on ne sait pas. On a une idée et on cherche. Thank you. C'est le concerto pour violoncelle et orchestre en La majeure de Carl Philipp Emanuel. Alors on dit Bach, on dit Bach, bah ça dépend. Voilà. Ah. Bah, les Allemands disent Bach, ce qui veut dire ruisseau, c'est joli. Voilà. Et Carl Philipp Emanuel, c'est le fils du grand Jean-Sébastien. Alors Jean-Sébastien Bach ou en allemand Johann Sebastian Bach. Voilà, c'est le digne fils de... Alors Bach a eu beaucoup d'enfants, ils n'ont pas tous survécu, il y a eu deux épouses, et l'un de ses enfants, Carl Philipp Emanuel, est devenu compositeur. C'est pas le seul, hein. Il y a d'autres frères qui sont devenus compositeurs également, on dit le Bach de Londres, le Bach de Berlin, et il se trouve que le Bach de Berlin, c'était Carl Philipp Emanuel. Alors Carl Philipp Emanuel, il est né en 1714, et il est mort en 1788. Alors, c'est une période qui est à cheval entre le baroque, si on parle des esthétiques, la musique baroque, et la musique qu'on va appeler bientôt la musique classique. Quand on dit la musique classique, on a l'impression que c'est très générique, hein, que ça démarre quasiment de la Renaissance et que ça va jusqu'à la fin du 19e. Bon. Non, non, la musique classique, c'est une période très précise, hein. L'esthétique classique, en gros, c'est de 1750 à 1800. C'est-à-dire, pour faire un truc très très schématisé, ce serait de la mort de Jean-Sébastien Bach, père, jusqu'à, on va dire, les premières grandes œuvres de Beethoven. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques grands compositeurs qui sont vraiment dans cette esthétique classique, Haydn, Mozart, et probablement les dernières œuvres du fils, Carl Philipp Emanuel Bach. Voilà. Se dire aussi que les choses sont jamais très très parallèles, c'est-à-dire que l'architecture classique en France, elle est strictement contemporaine de la musique baroque en France. Versailles, c'est de l'architecture classique. Mais dans le même temps qu'on construisait Versailles, Lully, Charpentier, c'est de la musique baroque. Donc les choses ne se croisent pas nécessairement. Et que du coup, ben voilà, c'est pas une règle absolue que de dire le baroque il est là, le classique il est là, ça dépend vraiment des endroits, de l'évolution des publics, de ce que les compositeurs proposent, etc. Et Carl Philipp Emanuel se trouve à une période qui est fascinante, enfin, moi je trouve ça assez fascinant, c'est aussi une période qu'on va qualifier, alors là c'est plus spécialisé peut-être, c'est le Sturm und Drang. Tonnerre et tempête. Ça veut dire qu'en fait les passions, tous ces sentiments un peu exacerbés, des fois de colère, de rage, de fureur, mais aussi de passion amoureuse, eh bien, ça va apparaître. C'est de manière beaucoup moins lisse que ce que certains discours musicaux nous avaient des fois donné à entendre avec une certaine élégance, parce que c'était de la musique de cour. Là, d'un seul coup, il y a une espèce de déchaînement de ces passions musicales. On demande aux instrumentistes, on demande à l'orchestre de se mettre un petit peu en extension d'eux-mêmes et d'aller chercher des ressources sur le plan des dynamiques, sur le plan de la virtuosité, ben des ressources qu'on soupçonnait pas forcément. Alors, ça vient pas de nulle part non plus. C'est-à-dire que dans les décennies qui ont précédé, c'est pas très très vieux, en gros des années 1700 jusqu'à 1750, on a exploré notamment une forme instrumentale tout à fait passionnante, c'est le concerto. Alors, c'est quoi un concerto ? Un concerto, c'est un orchestre qui va dialoguer, je ne vais pas dire accompagner parce que ce n'est pas vrai, qui va dialoguer avec un ou plusieurs solistes. Donc le soliste a la part belle, mais l'orchestre ne se laisse pas faire. Alors qui c'est qu'a le dernier mot ? Ben, y a tout un développement que le compositeur soumet à nos oreilles et c'est assez fascinant. Mais par contre, ça va requérir de la part du soliste une vraie virtuosité. Donc il y a une vraie éloquence instrumentale de sa part. Je ne dis pas que c'est un air d'opéra où on aurait remplacé le chanteur par un instrument, mais il y a quand même de ça, quoi. Il faut que le soliste soit vraiment convaincant. Et les premiers grands compositeurs à nous offrir des concertos, on va parler de Vivaldi, en Italie, hein, bien sûr, à Venise, puis après à Vienne à la fin de sa vie, Vivaldi nous offre 600 concertos. Le père de Carl Philipp Emanuel, Jean-Sébastien Bach, il composait aussi des concertos pour clavecin, pour violon, pour deux violons, pour violon et hautbois, que lui destinait par contre comme une espèce de musique d'amusement pour un café à Leipzig, café Zimmermann, où on se retrouvait pour jouer de la musique, mais de manière un petit peu ludique, donc concertante, on dialogue entre nous, voilà. Et puis le concerto de soliste s'affirme, et du coup on se retrouve effectivement avec un Carl Philipp Emanuel Bach qui nous compose un concerto pour violoncelle et orchestre. Alors la carrière de Carl Philipp, elle est assez étonnante parce qu'il va se retrouver très vite repéré et invité à la cour de Potsdam. Alors Potsdam, c'est en Prusse, aujourd'hui c'est pas très loin de Berlin. Mais à l'époque, le roi, c'est Frédéric II de Prusse, qui est très musicien, qui compose lui-même, bon, pas très bien, mais il compose quand même, donc on est obligé de le jouer à l'époque, fatalement, et il joue de la flûte. Et il a voulu faire de Potsdam ce que les rois de France ont fait de Versailles. C'est-à-dire, Potsdam, c'est la grande banlieue de Berlin, et il y a tout un complexe de châteaux qui sont totalement rococo. Là encore, un mot sur l'esthétique, c'est de l'architecture rococo. Et Carl Philipp devient un des compositeurs de la cour de Potsdam. Il n'est pas seul, hein, parce qu'il y en a un qui s'appelle Quantz, qui écrit des magnifiques concertos pour flûte, mais des fois, le pauvre Quantz, qui est aussi le professeur de flûte de Frédéric II, doit composer des concertos, et c'est Frédéric II qui va les signer comme s'il était le compositeur. Bon, c'est pas très honnête, mais personne s'en soucie à l'époque, et tout le monde applaudit Frédéric II. Il y a un tableau, au XIXe siècle, d'un peintre allemand qui s'appelle Menzel. Et Menzel représente une soirée de concert à Sanssouci. Sanssouci, c'est le petit château dans le domaine à Potsdam dans lequel habite le roi Frédéric II. Et on voit Frédéric II jouer. On voit Quantz derrière le roi pour corriger le royal doigté sur la flûte si jamais il y a un problème. Et Carl Philipp Emanuel Bach est au clavecin. Donc voilà, on voit cette représentation peut-être un peu fantasmée, on ne sait pas, mais en tous les cas, c'est tout à fait probable. Et à Potsdam, alors il n'est pas malheureux en termes financiers, parce que Frédéric II aime la musique. Frédéric II fait partie de ces souverains qu'on appelle éclairés au XVIIIe, c'est-à-dire qu'il est philosophe, il s'intéresse à beaucoup de choses, il est même franc-maçon, il fait de la musique, bon, ça n'empêche pas de faire la guerre comme tous les souverains. Et là, ça pose problème à Carl Philipp, parce que la Prusse, c'est un pays, et lui n'est pas prussien. Donc on va lui reprocher, ses confrères vont le jalouser et vont lui reprocher. Donc il veut quitter Potsdam, Frédéric II lui propose des sommes d'argent incroyables pour rester. Bon voilà, c'est pas tout à fait simple pour lui. Et puis surtout, ces fameuses guerres qu'on appelle les guerres en dentelle à l'époque, elles sont terribles pour la population et pour la Prusse, à tel point que pendant une campagne, une armée russe va s'emparer de Berlin et va aller jusqu'à Potsdam. Et on se dit, mais ça va être le pillage, ils vont détruire mon clavecin, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et il s'enfuit. Et il s'enfuit de la cour de Potsdam. Bon, la paix est signée, il revient, etc. Mais je veux dire, il ne faut pas imaginer que parce qu'on est compositeur de cour à l'époque, les choses sont très sécurisantes, sécurisées, et que tout va bien. C'est un monde quand même assez violent. Voltaire en fera l'expérience, parce que Voltaire va rencontrer Carl Philipp Emanuel à Potsdam aussi. Et Voltaire, Frédéric II l'incitait à rester toujours et encore plus à Sanssouci. Et Voltaire va se dire, non, mais à un moment donné, je voudrais rentrer chez moi, quoi. Voilà. Donc, éclairé, mais un peu tyran quand même, hein. Voilà, donc c'est le lot. Et pour en revenir à notre concerto pour violoncelle, cette forme du concerto, elle permet effectivement de mettre des solistes en valeur. Alors, il y en a quand même beaucoup qui commencent à l'époque à être issus de ces solistes de la bourgeoisie, de l'aristocratie. C'est une manière de se valoriser, de se mettre en lumière. Là, on voit clairement que le concerto de Carl Philipp, il n'est pas écrit pour un amateur. Il est écrit pour un virtuose, un professionnel, et il faut que ce soit saisissant, d'une manière qu'on va presque qualifier d'italienne, c'est-à-dire la virtuosité mise en avant, c'est un feu d'artifice, d'énergie, de vivacité, c'est vraiment important d'impressionner et de marquer les esprits. Voilà. Le concerto, il est en trois mouvements. Traditionnellement, sur cette période. Après, ça pourra évoluer. On aura, par exemple, un deuxième concerto de Brahms pour piano qui sera en quatre mouvements. Bon. Mais là, dans cette période dite classique, on a aussi parlé du rococo, on a parlé du Sturmundrang. En tous les cas, le concerto, il est en trois mouvements. Pourquoi ? Parce qu'initialement, on s'inspire d'une forme musicale qui s'appelle la sinfonia. Et la sinfonia, elle servait souvent de prélude ou d'ouverture aux opéras. Et c'était trois petits mouvements accolés en un seul, un petit mouvement vif, un petit mouvement lent, un petit mouvement vif. Voilà. Et puis cette sinfonia, on va se dire, mais on peut aussi séparer ces trois parties et en faire un mouvement plus conséquent au début, un mouvement lent qui tient une belle place avec une belle part d'expressivité, et un final tout à fait virtuose. Alors, quand c'est que l'orchestre, sans soliste, la sinfonia devient symphonie. Mais quand on rajoute un soliste, ben ça devient un concerto. Voilà. Et donc, on est sur ce dialogue du concertare. Voilà. On va pouvoir effectivement entendre un soliste. Dans cette même période, on est dans les années 1770-1780, il y a aussi la forme de la symphonie concertante. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un soliste, on en met deux. Tiens, c'est la symphonie concertante pour violon et alto de Mozart. Ou c'est la symphonie concertante pour violon, violoncelle, hautbois, basson et donc orchestre de Haydn. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Et peut-être de rappeler aussi que ces formes de concerto et de symphonie concertante, elles sont nées quelques décennies encore plus tôt, au même moment où naissait le concerto, avec une forme qui s'appelle le concerto grosso, c'est-à-dire l'orchestre au sein duquel il y avait plusieurs solistes. Donc la symphonie concertante préserve le principe de plusieurs solistes et de l'orchestre, et le concerto, lui, il dit un seul soliste et orchestre. Voilà. Et puis pour revenir un tout petit peu sur cette période du Sturm und Drang, là encore, c'est quelque chose qui va naître de la littérature. C'est-à-dire qu'on est dans des années, 1770, 1780, où il y a quand même un certain Goethe qui fait parler de lui, qui écrit énormément, qui écrit de la littérature, qui a écrit quelque chose qui s'appelle Faust, c'est quand même pas rien, qui écrit sur les sciences, qui écrit sur la musique, qui écrit sur la philosophie, voilà. Et ça aussi, ça contribue quand même à ce qu'on se donne quelques possibilités expressives qui ne sont pas que de l'académisme. Et Carl Philipp Emanuel, comme son frère Johann Christian, comme son autre frère Wilhelm Friedman, comme Joseph Haydn, comme le frère de Haydn, Michael Haydn, font partie de ces compositeurs, c'est pas le cas de tous à l'époque, mais qui vont effectivement écouter ces préceptes en se disant « poussons l'instrument dans ses retranchements et poussons l'écriture musicale un peu plus loin que ce qu'elle a l'habitude de faire avec un certain confort ». Certains ronrons, alors ça plaît à l'auditoire aristocrate, ça ne dérange personne, c'est une belle musique de fond, mais peut-être qu'on peut, on peut gratouiller un peu, voir ce qui se passe, et comment ça réagit en face. Donc voilà, il nous aide à porter le concerto de soliste un petit peu plus loin que ce que les auditeurs avaient l'habitude d'entendre. Et puis, je vais peut-être terminer avec ça, sur le choix du violoncelle. Alors, c'est intéressant aussi parce que longtemps, le violoncelle, il a été cantonné dans un rôle d'instrument pour le continuo. On va rappeler ce que c'est que le continuo. Le continuo, en musique baroque, c'est ce groupe d'instruments réunis autour d'un instrument harmonique, c'est-à-dire, ça peut être un clavier harmonique, dans le sens où il peut jouer des accords. Donc un instrument comme un orgue, un clavecin, ou alors de la famille des luths, un grand théorbe, c'est-à-dire, je dis pas que c'est une guitare, mais en tous les cas, c'est le même principe, voilà. Et on va agglomérer autour de ces instruments dits harmoniques d'autres instruments monodiques pour pouvoir créer une couleur qui va servir de fondation à tout l'édifice orchestral au-dessus. Alors, ce sont des instruments basses, donc le violoncelle, le basson, la contrebasse, voilà, tout ça, ça forme le continuo. Et on avait l'habitude d'entendre le violoncelle dans le groupe du continuo, et pas tant que ça en instrument soliste avec orchestre. Parce que bien sûr, il y a des œuvres pour violoncelle seul, donc suite de Bach par exemple, mais Bach n'a jamais écrit de concerto pour violoncelle. C'est bien dommage. Et donc, on extirpe le violoncelle de son sempiternel continuo, et on lui permet de jouer en soliste. Alors, pas comme un instrument basse, mais comme un instrument ténor. C'est-à-dire avec cette capacité, effectivement, d'avoir un aigu tout à fait intéressant, et puis aussi de pouvoir explorer une partie grave, très expressive, sans aller sur les profondeurs de la contrebasse à cordes. Le violoncelle est beaucoup plus aigu qu'une contrebasse, bien sûr. Mais en tous les cas, ce registre-là, la virtuosité lui permet d'avoir un rôle de soliste tout à fait édifiant. Et c'est aussi un instrument, il faut le noter, qui est élégant. C'est-à-dire que dans beaucoup de représentations picturales du XVIIIe siècle, on voit des aristocrates, des nobles, jouant le violoncelle ou la viole de gambe, qui était l'ancêtre peu de temps avant du violoncelle. Et c'est important de le dire parce que, par exemple, quand Haydn, qui est un strict contemporain de Carl Philipp Emanuel Bach, quand Haydn va prendre un poste de maître de chapelle à Esterházy, chez le prince Esterházy en Hongrie, il va lui composer des musiques pour, ça s'appelle un baryton, mais c'est un petit violoncelle, avec un peu plus de cordes. Le prince jouait du baryton. Donc Haydn écrit pour le prince. Donc un concerto pour violoncelle, ça ne choque personne, Et c'est même plutôt une nouveauté à l'époque par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre et de recevoir. Donc Carl-Philipp Emmanuel fait preuve de créativité, de grande vivacité, parce que son écriture est très vive et très, très, très impressionnante. Et puis, en même temps, il y a quelque chose qui nous frappe toujours dans la musique de cette époque-là, c'est qu'on a l'impression qu'on l'a déjà entendue, ou en tous les cas qu'on vit avec. Parce que mélodiquement, il y a quelque chose qui se réimprime dans notre esprit assez vite, comme si on était familier de cette musique-là. C'est pas une musique qui a pris trop ses distances avec l'auditeur. Elle cherche à le charmer, à le séduire. Elle cherche à le conquérir et à l'enthousiasmer. Donc, c'est pas qu'elle ne nous impressionne pas, c'est qu'elle ne nous met pas à une distance qui ferait que les choses deviennent infranchissables. Et on a envie d'aller jusqu'au bout de l'audition de ce très très beau concerto en la majeure pour violoncelle et orchestre de Carl-Philipp Emmanuel Bach.
C'était le troisième mouvement. Merci Philippe pour toutes ces passionnantes précisions. Nous avons écouté des extraits du Carnaval de Schumann dans la version de Arthur Rubinstein et intercalé entre les explications, les trois mouvements du concerto pour violoncelle de Carl-Philipp Emmanuel Bach par l'ensemble Aernen Baroque avec Catherine Jones au violoncelle. Oscillation atemporelle est terminée. Rendez-vous en mai pour ce qu'il nous plaira. Bon appétit.